Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Éducation, santé, justice et loi. Sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réunis sur une même enseigne.
Réunis sur une même enseigne.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
C'est tout simplement notre métier.
Bonjour à vous, il est tout juste 10h04. Bienvenue dans Service public. Le soleil se lève sur une nouvelle journée, pleine de possibilités et de promesses. Il faut y croire, ça changera un jour. Notre thème du jour, eh bien nous nous intéressons, nous sommes le mardi 7 octobre, nous nous intéressons à Octobre Rose, au cancer du sein. Nos invités sont presque installés, nous avons Dr Sarah Zaidi, oncologue au niveau du CHU de Bnimsous. Elle est déjà là, nous attendons nos deux autres invités, professeur Hamida Gindouz et madame Souhad Chama, elle est présidente de l'association d'aide aux cancéreux. Voilà, il y a toute une équipe à votre service, Klimou, qui nous fait le plaisir ce matin d'être à la console technique. Bonjour Clémou. Il y a Yassine qui est au streaming vidéo. Et nous avons Ikram à la régie d'antenne. Et évidemment aux commandes, Hakim Ben Moussa et Badera Haddad pour vous servir jusqu'à 11h.
مجرى دربي وانا متسائل
كل ما قسمت قلبي خلتني حاير غيرت مجرى دربي وانا متسائل
كيف يكون حالك يا انسان كي صحتك تخونك بهالزمان
خيالك ماشي وحداني سارح جسمك تعبان وراشي إيمانك ساطع
سامحني ما قدرت حزني فات يجوف الليل بيت سهران
لقيت تجرح تجبيني وقفت صامت سالت دموعي غلبتني وانا ساجد دعيت تجرح تجبيني وقفت صامت
إلهي الغلق يفتح ببان ويصير الحزن كأنه مكان إلهي الغلق يفتح ببان ويصير الحزن كأنه مكان
راوي صابر
10h09 on démarre service public. Nous nous intéressons ce matin à Octobre Rose, une initiative mondiale qui vise à informer et à sensibiliser les femmes sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Et autour de cette table, nous avons le plaisir de recevoir professeur Hamida Gündüz. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Merci. Nous avons avec nous docteur Sarah Zaidi, oncologue. Bonjour.
Oui, bonjour et merci pour l'invitation.
Merci. Et nous avons avec nous madame Sohaed Chata, elle est présidente de l'association d'aide aux aides au cancer. Merci d'être avec nous, Madame Chata. Alors, on démarre à 10h10 pour ouvrir le bal, je dirais, professeur Hamida Gündüz. Est-ce que c'est important ou pourquoi est-ce important, Octobre Rose, et de sensibiliser sur cette question ?
Bien sûr que c'est important, Madame Bedira, parce que, premièrement, c'est un problème de santé publique. Je pense qu'il faut mettre ça toujours à la page, parce que sans ce genre de manifestation, je crois qu'on aura tendance à délaisser un peu ce sujet, à l'oublier. Donc, Octobre Rose vient à chaque fois nous rappeler qu'il faut tirer l'alarme et augmenter la sensibilisation de nos femmes.
Et est-ce qu'on a une petite idée depuis quelques années déjà que cette opération a été lancée d'Octobre Rose, c'est ancré dans la mentalité des Algériennes.
Absolument.
Est-ce que vous avez un retour
Eh bien oui, parce qu'on voit de plus en plus le résultat. Mm-hmm. Ça, c'est ce qui nous importe, nous. Mm-hmm. En tant que chirurgien, en tant que cancérologue, mm-hmm. on a de plus en plus de stades précoces. Tout ça, c'est grâce à vous, aux médias, aux associations, aux autorités aussi qui font beaucoup d'efforts mm-hmm. dans ce sens. Et donc, on reçoit de plus en plus de femmes avec un cancer précoce.
D'accord.
Et on est content.
D'accord. C'est grâce aux informations et à l'information.
Absolument.
La médecine préventive. Pour
Absolument.
Vous, docteur Sarah Zaidi, oncologue, c'est important de rappeler qu'il y a Octobre Rose, mais évidemment, en tant qu'octobre, il faut aussi tous les jours dépister.
Absolument, mmh. c'est ce que je voulais dire. Oui, mmh. bien sûr, Octobre Rose est une opportunité en or, parce qu'on a tendance à se délaisser, mmh. peut-être toute l'année, et pour peu que Octobre s'installe, on se dit, tiens, j'ai pas fait ma mammographie, ah tiens, ça remonte à quand, ma dernière autopalpation et tout. Mais en réalité, ce que nous souhaiterions mmh. inculquer, c'est que cette sensibilisation nous accompagne et accompagne toutes les femmes tout au long de l'année.
Très juste.
Parce qu'en fait, un cancer, s'il doit s'installer, il va pas attendre le mois d'octobre pour se déclarer.
Très juste.
Donc on a vraiment besoin que, oui, on fait des actions intenses pendant le mois d'octobre, mais on souhaiterait que ça ait un effet qui s'étale sur toute, mmh. voilà, sur mmh. toute l'année. Et c'est en fait ça, c'est en réalité ça ce que nous souhaiterions mmh. avoir comme résultat.
Et j'imagine que sur le travail des associations, c'est toute l'année que vous travaillez, Madame Chata. Votre association, rappelez-moi juste le nom pour le donner et le partager aux
association
auditeurs.
Association d'aide cancéreux.
Oui.
Si vous prenez les deux lettres,
association oui. cancéreux, mmh. c'était un cri il y a plus de 20 ans, assez mmh. de tout cela.
Mmh.
Notre association effectivement travaille à longueur d'année pour sensibiliser les femmes, mmh. Surtout du sud et grand sud, parce que nous avons notre centre qui se trouve à la ville de La Guatte. Mais j'aimerais bien mmh. retenir ce que vous avez dit. Comme vous avez dit, depuis quelques années, cette opération, elle est organisée chaque mois d'octobre. Mmh. Et je pense qu'elle est actuellement dans la mémoire collective. Mmh. Du moins, je le sens.
Oui, ça y est, ça
je
s'est
le
ancré.
Sens. Je le sens. Je le sens chez les Touaregs. Je le sens chez les nomades oui. au sud, l'Atlas saharien. Oui, ils D'accord. parlent de cette opération.
Et pour vous, professeur Hamida Gündüz, vous êtes au CPMC de Mustapha Bacha.
J'étais au CPMC.
Ok. Ouais, dites-moi.
Je suis depuis 2021 à la clinique des Orangers, c'est-à-dire le PH Djilalia Rahmouni. Il y a une unité de cancérologie qui a ouvert les portes.
Et sur le qui terrain, comment ça se passe?
Ça se passe très bien, puisqu'il y a une unité nouvelle qui prend en charge les cancers du sein. Et donc, on opère pratiquement tous les jours des cancers avec une prise en charge le plus normalement. Et on fait notre réunion de concertation pluridisciplinaire avec l'équipe du professeur Oukal de Bnimsous, tous les lundis sur deux. Et donc, il y a un circuit de prise en charge très...
D'accord. Et pour vous, docteur Zaidi, comment ça se passe sur le terrain? Comment arrivent les femmes atteintes de cancer du sein et par quel biais? Alors, est-ce que c'est...
Ouais, ça c'est une bonne question. Alors, de tout temps, les patientes arrivent selon des circuits vraiment très, très atypiques. Pour peu qu'elles passent chez un médecin traitant, quelle que soit sa spécialité, ou ça peut être un médecin généraliste. Et dès qu'il y a un soupçon de besoin d'un avis oncologique, ben, elles sont directement orientées en oncologie. Dieu merci, depuis un moment maintenant, on a installé au niveau du CHU de Bnimsous ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire qui offre finalement à une patiente qui présente donc un nodule mammaire un circuit, ou si je peux me permettre de le dire, un couloir vert où il y a vraiment une procédure bien tracée. Absolument. Donc elle atterrit au niveau de la RCP via le médecin qui l'a prise en charge en premier. Ça peut être le chirurgien, ça peut être l'oncologue, le radiologue, on est tous autour de cette pathologie. Donc, on essaie de discuter et d'intégrer toutes ces patientes dans cette RCP, de telle sorte à ce qu'on puisse élaborer une feuille de route dès le départ, une stratégie thérapeutique bien tracée dès le départ pour la patiente. Et à partir de là, les étapes sont bien claires.
La patiente est informée.
Justement, nous arrivons à récupérer des patientes pour qu'elles puissent être intégrées dans le processus de prise en charge.
C'est pour ça qu'on dit que la réunion de concertation pluridisciplinaire, au lieu que ce soit la malade qui tourne autour des médecins et qu'elle se perde, c'est plutôt les médecins qui sont là autour du dossier d'un patient. Et on voit la patiente le jour même, on l'examine et on lui donne les solutions à son problème.
Dites-moi, quand vous dites pluridisciplinaire, alors il y a quelle spécialité?
Il y a les oncologues, les chirurgiens, les pathologistes, les anatomopathologistes, il y a le radiothérapeute et le radiologue. Ça, c'est un circuit qui est complètement... On a un circuit vraiment complet, puisque toutes les disciplines sont présentes. Et donc, la malade, elle n'est pas perdue. Elle a un circuit qu'elle doit... Maintenant, bien sûr, il y a des malades, certains malades, qui choisissent d'aller, par exemple, faire leur chimiothérapie ou radiothérapie au privé, si elles ont les
moyens. L'autorisation. Mais avant de parler des traitements, alors, quels sont les cas du cancer du sein? Alors, elles arrivent à quel stade, mesdames les docteurs? Allez-y, docteur Zaidi, allez-y, en tant qu'oncologue.
Il fut un temps où on recevait beaucoup de cancers localement avancés, c'est-à-dire, je parle des années 2010 avec le professeur Bendy Blahermo, on avait beaucoup de stades localement avancés, on était obligé de faire l'ablation du sein et tout. Maintenant, depuis 5 ans, j'ai remarqué, on a pratiquement 45% de traitements conservateurs. Et on était à 10% de conservation. C'est quand même énorme au bout de quelques années. Et ça, c'est grâce à ces campagnes de sensibilisation. La femme algérienne, elle a pris vraiment un coup de
elle a pris conscience.
Et puis maintenant, même quand vous allez faire votre mammographie, on vous rappelle et on vous écrit « rappel dans 2 ans ».
Voilà,
vous allez à peu près nous dire de tous les combien.
Absolument, c'est tous les 2 ans, effectivement.
Mais donc, c'est des cas avancés. Les deux.
Mais maintenant, on a de plus en plus de cas précoces. Donc, on a des stades T1, T2. Voilà, beaucoup plus.
Tout à fait.
Jusqu'à 60% peut-être. Voilà. Docteur Zaidi va peut-être
en confirmer. Voilà, juste pour éclaircir un peu ce que c'est qu'un traitement conservateur. C'est un traitement où la malade, le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, c'est-à-dire la maladie est vraiment au stade de début. Et donc, on ne sera pas obligé d'aller jusqu'à l'ablation de la totalité du sein. Donc, on va retirer juste le nodule. C'est ce qu'on appelle un traitement conservateur. Et Et ma foi, mm-hmm. pour une femme en début de sa vie.
Et mieux encore, il n'y a pas que le sein, il y a même la chaîne ganglionnaire. Au lieu d'enlever tous les ganglions,
conserver aussi,
la femme devient fragile sur le plan de son bras, maintenant on fait ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. Donc elle a, si vous voulez, une main qui est tout à fait normale, elle peut travailler avec. Mm-hmm. On opère des chirurgiens, on opère des travaux,
des confrères, est-ce qu'on a une idée, docteur Gendouz, professeur Gendouz ou docteur Zaidi, les âges, est-ce qu'on sait à peu près quel âge elles sont le plus touchées, ces dames?
C'est 48 en moyenne, c'est oui. 48 ans l'âge moyen
en Algérie.
En Algérie, c'est 48.
En Algérie,
est-ce que c'est précoce? Est-ce que c'est jeune?
Ben oui.
48
ça
ans.
Reste jeune. Hein. Ouais, notre population, non, déjà, elle est jeune. Mm-hmm. Et les cas touchés par le cancer du sein, c'est des cas de plus en plus jeunes. Oui, là, aujourd'hui, on peut parler d'une moyenne de 48 ans, on va
vous
dire.
Vous savez,
47
oui, professeur Gendouz.
On a présenté une fois un travail en France sur la femme jeune en Algérie. Mm-hmm. J'avais présenté une série de 600 malades prise en charge au CPMC à l'époque de professeur Bendib Lahirhmo et son équipe. Et donc, quand j'ai présenté, ils étaient effarés vis-à-vis de ces chiffres qui 12% des malades avaient moins de 35 ans. Et donc, c'était un chiffre qui les
effarant,
a vraiment effarants. Oui. Donc, ils se sont posé la question, pourquoi autant de femmes jeunes en Algérie? Et d'ailleurs, on a obtenu le prix de Charles-Marie Gros là-bas, parce que c'était une étude qui les a vraiment captivés. Mm-hmm. Et on devrait faire une étude dans ce sens. Pourquoi autant de femmes
Est-ce
jeunes?
Est-ce qu'il y a eu des réponses dans votre analyse?
Il y a eu des réponses, mais à moitié. On est resté un peu sur notre faim, parce que j'aurais aimé, par exemple, avoir l'aptitude et les moyens de faire l'étude génétique chez les femmes jeunes. Mm-hmm. C'est en faisant l'étude génétique qu'on pourra apporter beaucoup de réponses. Mm-hmm. Peut-être qu'il s'agirait plutôt de formes génétiques et qu'on n'a pas les moyens de le prouver.
Ok. Alors, le cancer du sein est un problème de majeur de santé publique en Algérie, occupant la première place des cancers des mesdames, docteur Zaidi.
Oui.
Alors, on parle de 13 décès par jour. Est-ce qu'on a une idée du nombre? Est-ce que ça diminue ou ça augmente?
Oui, en réalité, on ne peut pas avoir des estimations précises parce qu'on n'a pas, pas un registre qui s'occupe de ça sur le territoire national. On a des registres régionaux, mais on ne peut pas parler de décès comme ça de manière...
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une diminution de la mortalité.
La mortalité est diminuée parce qu'on a de plus en plus de cas précoces. Hein, donc, la mortalité, bien sûr, est liée au stade
avancé.
Vous
rappelez l'importance du dépistage.
Oui, mais laissez-moi vous rappeler aussi que l'une des raisons pour lesquelles on a des cas diagnostiqués chez des femmes jeunes, c'est parce que notre population
est jeune.
Il ne faut pas perdre de vue le fait que nous sommes une population jeune. Certes, on est en train d'inverser la donne. La population vieillit, l'amélioration de la qualité de vie, mais essentiellement notre population est formée de femmes jeunes. Ajoutez à cela, comme a dit professeur Gendouz, la composante génétique
est primordiale pour quelque chose
et il va falloir absolument que ce soit pour le sein ou pour d'autres cancers dans notre population, vérifier et se pencher un petit peu sur la question de la génétique, parce qu'on est sûr de découvrir des mutations.
En tout cas, si vous avez envie de participer, chers auditeurs, le standard est à votre disposition, le 021 48 15 15, pour poser vos questions. Est-ce qu'on peut savoir, spécifiquement les femmes algériennes, il y a des facteurs de risque? Quels sont ces facteurs de risque?
Certainement, les facteurs de risque existent. Hein. Parmi les facteurs de risque, déjà, c'est le facteur hormonal. Vous savez, maintenant, la femme algérienne, elle est de plus en plus, je dirais, émancipée. Elle fait des études supérieures. Elle se marie tard. Elle n'a pas d'enfant avant 35 ans. Mm-hmm. Tout ça, c'est des facteurs hormonaux. Elle prend
c'est
plus
un facteur de risque de ne pas faire d'enfant.
Prendre des contraceptifs oraux pour ne pas avoir d'enfant précocement, tout ça. On croit bien faire, mais finalement, c'est des facteurs nocifs. Et peut-être docteur Zaidi nous dira plus sur l'alimentation.
Oui, elle nous dira. Est-ce que l'absence des règles aussi, disent quand vous l'avez pas très jeune, ça peut aussi être un facteur de risque?
Tout ce qui est facteur hormonal, en fait, l'augmentation de l'imprégnation œstrogénique.
C'est-à-dire
une
ménarchie les règles
tôt,
précoce. Plutôt, précocement.
C'est-à-dire vers 11 ans?
Avant 13 ans.
Ok.
Ah bah oui.
L'obésité, on parle aussi
alors,
d'obésité,
voilà, donc
docteur
Zaidi. Il y a deux grandes catégories de facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque sur lesquels on n'a absolument aucun ascendant, à savoir l'âge, donc le sexe,
les facteurs génétiques.
Les facteurs génétiques. Et puis, il y a tout ce qui est sujet à la sensibilisation, c'est-à-dire notre mode de vie, finalement.
Qui a complètement changé.
Qui est complètement occidentalisé. Ouais. On mange vraiment plus du tout comme nos ancêtres le faisaient il y a 30-40 ans. Et puis, donc, tout ce qui est régime hypercalorique, sédentarité, absence d'activité, notre mode de vie, le travail que nous menons et tout. Tout ça fait en sorte que ça augmente le risque de survenue. Mais il ne faut pas oublier aussi le facteur numéro un que nous pouvons changer, c'est le tabac. Oui. Donc le tabac est identifié comme étant le facteur numéro un, facteur de risque numéro un pour
à travers le monde, hein, c'est pas spécifique aux Algériens.
Non, c'est pas spécifique. Okay. Mais bon, si je peux dire, s'il y a un facteur de risque qui peut être spécifique aux Algériens, je ne sais pas si je peux dire les régimes hypercaloriques, le manque d'activité physique.
De plus en plus, vous avez des femmes qui arrivent obèses.
Et donc,
très jeunes même, à 30 ans.
Absolument, de plus en plus.
Je me permets peut-être de dire qu'il y a même le facteur de stress aussi qui commence à être de plus en plus incriminé. Hein. Et je le vois dans le quotidien quand on reçoit des femmes, elles sont souvent soumises à un stress immense. Oui. Elles ont des problèmes, que ce soit avec
elles gèrent le quotidien de toute une famille et c'est pas évident. Hein. Vous pouvez avoir des coupures d'eau, vous pouvez avoir des problèmes de transport.
Je me rappelle, j'avais reçu la présidente d'une association des femmes battues, je crois. Elle m'avait dit, elle me ramenait des cancers du sein d'où elle travaillait. Elle me disait, vous devriez faire une étude sur l'influence du stress sur nos femmes. Donc, parce que c'est des femmes
c'est quand très même juste, soumises. Hein, parce qu'elles portent tout. On sait que c'est la femme qui porte toutes les familles, entre la gestion de l'extérieur et de l'intérieur de la maison. Oui. Est-ce qu'au niveau associatif, en tant que présidente, Souhaït Chatta, vous rencontrez donc différents profils de femmes atteintes de cancer du sein? Alors, comment elles prennent en charge leur vie après l'annonce?
Bon, il y a l'annonce.
Oui.
Il y a le ciel qui tombe sur la tête. Ça, c'est la première étape. Nous, en tant qu'association, on essaye de remédier à cela en trouvant des personnes sources autour de la dame pour pouvoir un peu aider. Vous savez, nous travaillons surtout dans le sud et Grand Sud et c'est pas évident de pouvoir aller jusqu'au fond du sud pour pouvoir prendre en charge. Mais si je parle de tout ce qui est wilaya de la Gouate et autour, il y en a au moins une dizaine de wilaya. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'établir d'abord un contact avec la femme. On essaye aussi de lui expliquer sa maladie. On essaye de diminuer un peu le stress, comme disait professeur Guindouz, parce que c'est pas évident. Nous organisons aussi le café de la vie où nous rassemblons.
Ça c'est très bien.
Oui, nous rassemblons les femmes et les anciennes et les nouvelles et elles discutent
elles racontent leur parcours.
Oui, voilà, et elles sortent plutôt à l'aise. Il y a eu un témoignage qui disait moi j'avais pas la boule au sein mais je l'avais là.
Oui, je pensais en
touchant son estomac.
Ça s'appelle l'angoisse.
Et on revient au stress. Donc c'est surtout les personnes sources qu'on essaye de repérer.
Ceux qui accompagnent vous, les aidants, on va dire.
Okay. Ça c'est sur le plan familial. Maintenant il y a l'environnement. Il y a aussi l'aide médicale avec les mamos, les rendez-vous. Nous organisons leurs rendez-vous. Avant, il y a une vingtaine d'années, tout se passait à Alger. Maintenant,
c'est sur le territoire national.
Surtout à la porte du Sud, à la Gouate. Maintenant, nous avons les chirurgiens.
Il n'y a pas de difficulté pour faire sa mammographie du côté du Sud? Elles ont accès, c'est possible, c'est pas la machine est en panne, j'ai pas de possibilité de faire la mammo.
Bien sûr qu'il y a ce genre de problème, mais en tant que association, nous avons aussi des conventions avec le privé qui essaye d'aider, qui réduit beaucoup les prix. Nous faisons appel à des bienfaiteurs pour pouvoir payer ses mammographies. Et c'est ce qui se passe actuellement pour ce mois d'octobre, et on le fait chaque année. Nous organisons un dépistage où, je vous donne le chiffre, de l'an dernier, 400 femmes sont passées par le mammographie échographie. Nous avons trouvé 5 cas.
Sur les 400.
C'est beaucoup. Oui. Nous pensons que c'est beaucoup.
Dans quelle wilaya vous l'avez fait, Madame Chatta?
À la Gouate, parce que nous avons un centre de dépistage là-bas. Et ces cinq, bien sûr, l'association prend en charge automatiquement, rapidement, les cas qui en découlent de cette opération. Et ces cinq cas sont pris en charge par les chirurgiens de la Gouate, par les oncologues de la Gouate. Et je suis contente aussi d'annoncer que le CAC a ouvert pour tout ce qui est radiologie. La radiothérapie ouvrira très bientôt. Et voilà comment
il y a une prise en charge, ils n'ont pas besoin de venir à la capitale, ça c'est important.
Et ce qui est important là, quand j'entends des professeurs Gendouz et docteur Zaidi au sujet du comité là, qui trace le chemin du malade, eh ben, c'était le rôle de notre association de le faire pendant 20 ans. C'était nous qui allons chercher le chirurgien, l'oncologue.
C'était vous le coordinateur,
c'était
on va dire.
Nous, parce que le centre de notre stratégie, c'est le malade. Et voilà. Donc, voilà comment les choses se passent. Oui. Et là, je vous donne un chiffre d'aujourd'hui qui n'est pas terminé. Il y a déjà 200 femmes qui sont inscrites pour ce mois d'octobre 2025.
On est que le 7 octobre. Voilà, c'est le début de la campagne de sensibilisation. Oui. Est-ce qu'on peut un peu évoquer les quelques cas ou les cas les plus souvent qui se présentent au niveau de vos services pour dire c'est quoi les étapes? Donc la mammo, l'écho fait savoir qu'elle est atteinte, la malade. C'est quoi après le cheminement?
En fait, souvent, elle vient parce qu'elle a touché quelque chose déjà. Okay. C'est ça. On aimerait bien qu'elle vienne sans avoir touché. Ouais, c'est notre objectif à travers ces campagnes de sensibilisation. Dès qu'elle touche, ça veut dire que c'est le diagnostic. Elle touche quelque chose, elle vient chez moi, j'examine. Mm-hmm. En examinant, il y a des indications pour chaque âge. Une femme jeune, on ne demande qu'une échographie, ma mère. Elle a 40 ans, on commence à demander la mammographie. Elle a des antécédents familiaux avec un jeune âge, on demande plutôt l'IRM, ma mère. En fait, c'est des indications particulières et convenues à chaque tranche d'âge. L'essentiel, c'est qu'elle se présente et il y a un remède à tout.
Ok, là, elle se présente, elle a quelque chose.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est quoi son chemin, cette malade?
C'est-à-dire, elle a une mammographie. Oui. Elle a une mammographie. D'ailleurs, c'est ça le problème ici, c'est que quand elle fait le dépistage, les radiologues souvent me disent, on ne sait pas où l'envoyer. Oui. Mais finalement, il faut l'envoyer n'importe où, parce que chaque médecin traitant, qu'il soit chirurgien, gynécologue et tout, il a la capacité de demander la séquence d'examens paracliniques qu'il faut.
Oui.
Elle vient en consultation, que ce soit chez Dr Zaidi ou chez moi. J'examine, je trouve quelque chose, elle a une mammographie qui dit qu'il y a quelque chose de suspect. Mmh. La première des choses, c'est un prélèvement.
Okay.
Un prélèvement histologique pour confirmer.
Comme on dit, une biopsie, c'est
absolument, c'est une microbiopsie. Donc, éviter de passer à côté de quelque chose. Mmh. Une fois qu'on fait la microbiopsie, en général, on a posé l'indication d'un cancer. Mmh. Si on pose l'indication d'un cancer, c'est la deuxième étape. C'est de savoir est-ce que ce cancer est localisé au niveau du sein ou bien il s'est propagé ailleurs.
Et qu'est-ce qui détermine s'il est localisé ou il s'est propagé ailleurs?
Il détermine toute la séquence thérapeutique. D'accord. Parce que s'il s'est propagé ailleurs, déjà on n'opère pas pour l'instant. Oui. Je dis bien pour l'instant. Ce n'est que lorsqu'elle aura un traitement médical bien déterminé qu'elle repassera en réunion de concertation pluridisciplinaire pour voir si elle s'est stabilisée sur le plan des localisations secondaires pour pouvoir l'opérer après.
Ça veut dire la chirurgie ne se décide pas tout de suite, mesdames? C'est ma question.
Si elle est, si elle s'est propagée,
d'accord,
pas tout de suite.
Okay.
D'accord, on attend la réponse au traitement.
Docteur Zaidi, en tant qu'oncologue, comment ça se passe?
Alors oui, voilà.
Ils atterrissent chez vous.
L'examen clinique couplé à un examen radiologique est à même de dire s'il y a quelque chose de suspect et si on doit aller vers une biopsie. Mmh. Donc la biopsie va donner le diagnostic histologique et après cette étape, il va falloir qu'on fasse un bilan d'extension. Le bilan d'extension va recourir à des examens radiologiques qui visualisent tous les organes.
Donc, quand vous parlez de radiologie, est-ce que, par exemple, un PET scan, comme se fait actuellement, détermine s'il faut...
Alors, ce que nous faisons dans le conventionnel, c'est un scanner.
Un scanner
thoracoabdominopelvien. avec une scintigraphie osseuse.
D'accord.
Il faut savoir que le cancer du sein, c'est un cancer ostéophile par excellence. Donc, il est souvent propagé dans,
les os.
Dans l'os. Ouais. Et il faut vérifier ça. Parce que s'il y a une propagation à distance, ça change complètement la prise en charge.
Stratégie. Mmh.
Dès lors où la maladie n'est plus du tout localisée, on se focalise plus sur le traitement local au niveau du sein. Donc, on ne parle plus. C'est plus du tout une priorité d'aller opérer le sein, mais plutôt le pronostic revient aux localisations secondaires. Si on arrive à contrôler les localisations secondaires, et on peut toujours statuer sur le cas une fois, deux fois, plusieurs fois, et décider si on peut proposer ou pas un traitement chirurgical, c'est-à-dire local ou pas.
D'accord. Avant de parler du traitement que vous proposez, alors quand on arrive à l'ablation, c'est quoi le résultat ? C'est que c'est pas possible de sauver ce sein-là ?
En cas de métastatique,
oui.
Donc, ça sert
à rien. C'est là où on enlève le sein.
Non.
Non. À quel moment on enlève le sein, mesdames ?
On enlève le sein lorsque la maladie est confinée au sein.
D'accord.
Elle n'est pas encore sortie du sein.
Et qu'il n'y a pas possibilité de conserver.
De conserver.
Ça veut dire que la taille de la tumeur est beaucoup trop importante par rapport au volume du sein.
Oui.
On ne parle même pas de taille supérieure à 5 cm. Mmh.
C'est proportionnel.
C'est la taille
au sein, en fait.
De la tumeur par rapport au volume
du sein. D'accord.
Si elle a une grosse taille, mais qu'elle a aussi un sein qui est énorme, on peut toujours conserver le sein.
D'accord.
D'accord. Ce n'est plus un problème de taille tumorale, mais c'est rapport taille tumorale, volume mammaire.
D'accord. Est-ce qu'on on fait plus d'ablation ?
Non.
Est-ce qu'on a une idée, mesdames ?
Pratiquement équivalent.
De plus en plus, on fait des traitements. On arrive à proposer des traitements conservateurs et ça, c'est quand même
c'est
une avancée.
Fantastique.
Franchement,
c'est
quand on arrive à proposer un traitement conservateur où on sait, on arrive à convaincre la patiente que ça ou mastectomie, c'est pareil.
D'accord.
C'est déjà un gain.
Ok, bien sûr, de ne pas
moi,
passer à la
chirurgie.
Oui, professeur Guindouz, oui, allez-y, l'association...
Oui, parce qu'il y a 20 ans, c'était automatiquement
de l'ablation du sein.
La mastectomie.
Tout à fait.
Et on entendait en Europe ce traitement conservateur et c'était de la science-fiction.
Oui.
Et là, alhamdoulilah, on y arrive.
On y arrive. Alors, quand vous parlez de traitement, professeur Guindouz ou docteur Sarah Zaidi, oncologue, alors quels sont les traitements... Après, on va parler si elles vont... Mais quels sont les traitements ? Est-ce que c'est de l'immunothérapie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie ?
Alors,
qu'est-ce qu'on propose à ces malades ?
Les traitements proposés dépendent étroitement du stade. Hein. Il faut souligner quand même que la patiente, une fois biopsiée, donc c'est vrai, on pose le diagnostic d'un cancer, mais il faut aussi donner son profil immunochimique et biomoléculaire parce que c'est ça qui va guider les indications thérapeutiques. Dans le stade localisé, bien sûr, il y a certains paramètres histopronostiques qui vont guider un petit peu certaines thérapeutiques qui sont drivées, on va dire, par des récepteurs spécifiques qu'on va rechercher ou alors par que ce soit des récepteurs hormonaux. Enfin, c'est très précis, c'est de la précision, comme on dit, mais à l'échelle métastatique, ce profil-là va aussi nous aider pour indiquer. Alors,
qu'est-ce qu'on propose dans nos hôpitaux ?
Alors, dans nos hôpitaux, jusqu'ici, on propose quand même pas mal de choses. Hein.
D'accord.
Que ce soit pour les malades qui présentent des récepteurs hormonopositifs ou alors un HER2 positif, on peut toujours...
C'est-à-dire, docteur, pour ceux qui ne sont pas médecins, HER2, c'est quoi ?
Oui, voilà, c'est des récepteurs qui sont soit présents, soit absents. En fait, c'est un target, c'est une cible qu'on peut cibler avec un traitement. Dès lors où on identifie sa présence, eh ben, on peut offrir le traitement qui convient et qui va cibler ce traitement. Pareil pour les traitements hormonaux, les patientes qui ne présentent pas de récepteurs hormonaux, il n'y a aucun intérêt à leur proposer un traitement par hormonothérapie, on est d'accord. Les traitements immunologiques sont réservés dans les situations métastatiques à des patientes qui ne présentent aucun récepteur, par exemple. Donc, c'est vraiment des catégories, c'est étroitement lié au profil. Donc, au départ, quand on fait la biopsie ou alors quand on fait la mastectomie avec une pièce opératoire, il faut absolument passer par un certain nombre d'examens de marqueurs, on va chercher certains marqueurs
pour déterminer,
qui vont nous permettre si cette personne est éligible à tel ou tel
d'accord.
traitement.
D'accord. Et tout ce parcours, mais combien de temps, professeur docteur Zaidi ?
Alors, dans le meilleur des cas, c'est une semaine à 10 jours pour le profil immunohistochimique, n'est-ce pas ? Dans le meilleur des cas, parfois ça peut être un peu
plus long. Parfois, à l'hôpital, ça peut prendre jusqu'à 20 jours. jusqu'à 20 jours pour avoir tous les récepteurs à notre disposition pour pouvoir faire passer déjà la patiente en
exactement
réunion de concertation.
Et particulièrement dans le cancer du sein, cette analyse est très 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 importante. C'est et on doit l'avoir dès le départ. Parce que parfois, je vous donne l'exemple, sous le couvert de professeur Gendouze, dans des situations localisées où la maladie est parfaitement opérable, on doit d'abord avoir un profil immunohistochimique pour savoir si cette patiente est d'emblée candidate à une chirurgie première ou alors doit bénéficier d'abord d'un traitement néoadjuvant parce qu'elle présente des récepteurs qu'on doit cibler, ensuite passer en chirurgie.
D'accord, d'où l'importance de se concerter, je disais, elle est importante.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois les patientes se posent la question, elles me disent, mais moi j'ai une petite tumeur, pourquoi vous voulez me faire passer par la chimio d'abord? Et on leur explique que c'est pour augmenter leur survie et leur qualité de vie. Il faut, si elles ont une réponse histologique complète après ce traitement médical néo-adjuvant, elle aura plus de chances de guérison.
D'accord.
Donc il faut qu'elle comprenne ce chemin.
Vous expliquez, c'est tout un processus. Il faut leur parler. Il faut
c'est un traitement à la carte. On dit que maintenant le cancer du sein est un traitement à la carte. Chaque malade, elle a sa propre destinée, sa propre trajectoire.
D'accord. Et que dans quelques instants, une petite pause pour dire qu'on peut s'en sortir.
Absolument.
Voilà. Et on revient vers vous s'il y a des appels. Ils seront les bienvenus au Standard d'Alger Chaîne 3. Bon, on profite de nos invités pour poser des tas de questions, mais si vous avez envie, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre à vos questions. 6h42, nous nous intéressons ce matin dans Service Public au Octobre Rose, au cancer du sein. Le dépistage précoce est crucial pour améliorer les chances de guérison. Pour nous en parler autour de cette table, nous avons donc commencé l'émission avec le professeur Hamida Gendouz et docteur Sara Zaidi en compagnie, évidemment, de la Société Civile, une association qui porte de l'aide aux cancéreux, Madame Souhad Chata. Et là, on prend un appel au 021 48 15 15. On a Aïcha avec nous. Bonjour Aïcha.
Bonjour Badira.
Merci pour votre appel. Quelle est votre question, Aïcha?
Bon, c'est pas une question, parce que je ne parle pas particulièrement de ce sujet,
oui,
mais je vous téléphone pour rendre hommage à tous ces jeunes médecins qui sont là pour nous prendre en charge et qui ont eu le courage de ne pas se laisser tenter d'aller ailleurs.
Eh ben, merci beaucoup Aïcha pour votre appel.
Alors, je vous porte un hommage à vous aussi parce que vous êtes là, toujours présente. Vous merci. Nous présentez des sujets très variés.
Merci Aïcha.
Avec beaucoup de charisme.
Merci Aïcha.
Et beaucoup de... Bon, je ne vais pas vous faire rougir, j'arrête.
Non,
pas.
Voilà. Dites-moi Aïcha, alors, et vous avez quel âge? Vous allez nous dire, je sais que vous êtes une auditrice d'un âge certain. Est-ce que vous faites votre mammographie tous les deux ans?
Et c'est oh non, j'ai dépassé les 80, alors je ne sais pas si j'en ai encore.
La Iberk. Eh ben, écoutez, on va voir avec les médecins qui sont là pour dire de quel âge à quel âge on doit faire notre mammographie. Merci Aïcha pour
merci
vos
beaucoup
mots.
Beaucoup et bon courage et bonne journée.
Merci, merci. Alors voilà, vous avez des remerciements en direct, c'est important. Alors l'âge du dépistage, l'âge où on doit passer la mammographie, mesdames, est-ce que c'est entre, donc on sait que c'est tous les deux ans, entre 50 ans et 74 ans ou plus loin?
On peut aller jusqu'à 80, il n'y a pas de souci. Tant que la femme est autonome et qu'elle peut se déplacer pour faire une mammo, pourquoi pas? Il y a des cancers de la femme âgée. J'opère des fois des malades de 90 ans et qui sont très bien. Hein. 90 ans,
donc on peut aller jusqu'à 80 tous les deux ans. Mettez votre casque, on va du côté Tizi Ouzou. On a monsieur Sedet, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, quelle est votre question?
J'allais intervenir pour un tout petit peu la prise en charge des malades.
Des malades atteints de cancer du sein?
Non, pas du sein.
D'accord. Ben, le thème aujourd'hui, c'est le cancer du sein, monsieur Sedet.
Je vous prie de m'excuser.
Non, il n'y a pas de souci. Si pour une autre émission, si ça serait autour d'autres cancers, on y reviendra. Il y a d'autres émissions qui parlent de... Voilà. Merci beaucoup, M. Sadat. 10h45, alors on parlait de 50 jusqu'à 80 ans, mesdames. Sur le terrain, alors vous nous avez expliqué, hein, professeur Gendouz et docteur Zaidi, qu'il y a une prise en charge. Vous êtes plusieurs spécialités à s'occuper d'une malade atteinte du sein. Mais souvent, vous me disiez, docteur Zaidi, c'est la difficulté de leur faire accepter, d'avoir les traitements, d'accepter les traitements quand vous êtes face à des patientes.
Alors oui, il est possible que dans le parcours, c'est vrai que la malade, elle est prise dans l'engrenage des examens complémentaires, certes. Elle fait absolument tout ce qu'on lui demande de faire parce qu'elle se fie totalement à l'expertise du médecin et bien sûr de la concertation puisqu'il y a plusieurs spécialistes autour d'elle. Mais arrivé au moment décisif où il faut lui expliquer voilà ce qu'il faut faire et par quelles étapes il faut passer, il peut y avoir un blocage.
Une réticence.
Genre oui, j'ai tout fait, j'ai fait en sorte qu'on pose mon diagnostic, je sais quel stade de la maladie, à quel stade de la maladie je suis, mais voilà, ceci et cela ne me conviennent pas. Et...
Alors qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent une...
Alors on a de tout, il y a des patientes, alors soit elles n'acceptent pas la mastectomie, ne touchez pas à mon sein, soit
enlevez-moi ce mal,
ou alors vous me parlez de tout, sauf de la chimiothérapie, ne me parlez pas de l'alopécie, donc la perte de cheveux c'est hors de question. Tous ces traitements qui vont m'abattre et qui vont faire que je ne me reconnaisse plus, c'est l'idée reçue en fait, je n'en veux pas. Et donc on
et
est
ça,
face
c'est compliqué,
à un problème,
voilà.
parce qu'on a beau tout faire pour s'organiser autour du cas de la patiente et donc d'y voir un peu plus clair quant à la prise en charge et les séquences thérapeutiques et tout, mais si la patiente n'est pas impliquée,
c'est la raison
pour laquelle il faut l'impliquer dès le départ du processus.
Un appel, Farid d'Alger qui veut parler du cancer du sein. Est-ce que vous avez une question précise, Farid?
Bonjour Madame Badahed, bonjour,
bonjour
à vos invités. Moi je voudrais juste aborder le sujet de l'accompagnement psychologique du malade.
Très juste, on allait y venir.
Voilà, l'accompagnement psychologique. Bon, moi je travaille dans une société privée et pour le mois d'octobre rose, donc nous avons en collaboration avec une clinique privée organisé une campagne pour permettre au personnel féminin de notre société d'aller passer des échographies mammaires. Donc, et c'est pris en charge par l'entreprise, bien sûr. Et là, pourquoi j'ai abordé le sujet d'accompagnement psychologique? Bon, moi, j'ai un parent à moi, donc qui est mon père, qui a un cancer, c'est un cancer du sein, de la prostate, qui se fait suivre par Dr Zaidi, que je salue à l'occasion.
Ok.
Et voilà, donc il y a, quand je dis accompagnement psychologique, donc au niveau...
des structures, des c'est ce qui manque.
Mais voilà, des structures, mais aussi au sein des familles, à l'intérieur des familles
très
elles-mêmes.
Juste, bien sûr.
Il y a des malades qui n'aiment pas aborder le sujet, comme c'était le cas de mon père.
Oui.
Donc je vous parle... Donc, par expérience, au niveau du centre de Beaufrézier chez Dr Zaidi, moi, ce que je sais, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que mon père revient de son rendez-vous mensuel, il est très serein.
Okay.
J'ai eu à rencontrer Dr Zaidi à deux ou trois reprises. En fait, avant de regarder le médecin, vous voyez l'humain.
D'accord. Et c'est important. C'est très juste.
C'est
vous avez tout à fait raison.
À quel point c'est important. Pour vous dire que une toute petite grimace d'un médecin à la lecture d'un bilan, des résultats donc d'une biopsie ou autre examen, peut être perçu d'une manière négative chez le patient.
En tout cas, merci
voilà.
Félix. C'est très, en tout cas, vos remarques sont très très.
Que vous puissiez donc aborder ce sujet pour éclairer un peu l'opinion.
Oui.
Et un hommage particulier à Dr Zaidi.
Je suis
Farid Adraf.
Merci Farid. Merci. En tout cas, c'est très juste. Hein, c'est ce que disait. Merci à ceux, mais aux médecins, Dr Zaidi, professeur Gendouz, à tous les médecins qui sont sur le terrain. Je dirais, on y vient, cet accompagnement psychologique. Je dirais, c'est peut-être le plus important. Est-ce qu'on y travaille là-dessus, professeur Gendouz?
C'est important. Et malheureusement, on en manque. On en manque au niveau de nos services. On n'a pas de psychologue.
Et pourtant, ils sont formés par les universités.
On fait fonction de psychologue. C'est nous qui annonçons le diagnostic. C'est nous qui prenons en charge les malades. C'est pas évident. Quand vous avez dans une consultation, et peut-être Madame Zaidi aussi, la même chose, 60 malades jour,
écoutez,
vous pensez bien qu'on ne peut pas se donner vraiment à fond avec tout le monde. Alors c'est pour ça que parfois, on donne plus de temps aux nouvelles malades qui viennent de démarrer, parce que c'est elles qui ont plus besoin d'une aide psychologique, parce qu'elles n'ont pas encore connu le trajet.
Le périple, c'est un périple. Voilà,
c'est l'inconnu. Elles sont vraiment dans l'inconnu. Par contre, on donne un petit peu de temps aux autres parce qu'elles sont guéries. Alhamdoulilah, on leur dit, vous êtes...
Alors, il y a guérison, allez-y, docteur Zaidi, il y a guérison en tant qu'oncologue,
Juste pour rebondir sur l'intervention de notre...
auditeur Farid,
que je remercie d'ailleurs. Il faut, bien sûr que dans chaque service il y a un psychologue. C'est toujours pas suffisant. Ils font ce qu'ils peuvent. À notre niveau dans la consultation, nous aussi on fait ce qu'on peut. On est obligé de prendre en charge le patient, non seulement sur le plan thérapeutique mais aussi sur sur l'aspect psychologique, et c'est en fonction du besoin du malade. Même c'est vrai que ce que dit professeur Gendouz, on a des consultations de folie, c'est vrai, il faut absolument réussir à voir tout le monde, mais au cas par cas, on ressent le besoin du patient.
Bien sûr.
Le patient exprime une angoisse, ou il a besoin de parler, ou il a besoin d'exprimer quelque chose, une idée, une pensée,
on est obligé. Particulièrement,
vous pensez.
Mais la prostate aussi,
ça
peut être des maladies chroniques, le temps, et notre devoir, c'est de les accompagner. Même si le secteur de psychologie ou parallèle renforce, même s'il venait à renforcer notre travail, notre rôle aussi est d'être présent pour le patient.
Il y a guérison, professeur Gendouz, docteur Zaidi, on s'en sort.
On dit rémission.
On peut parler de rémission, et qui peut durer longtemps et peut durer des années.
Personnellement,
ça dépend bien entendu de la précocité de la prise en charge.
En fait, à ma consultation, je reçois des malades qui ont dépassé 20 ans.
Oui, oui.
Même plus.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut solliciter votre association en tant que présidente, Madame Souhad Chatta?
Sur deux axes.
Oui,
j'aimerais bien revenir.
Et après le mot de fin à vous. Hein,
j'aimerais bien revenir sur le côté psychologique. Oui. Parce que les médecins, on n'a pas le temps d'accomplir ce rôle de psychologue. Et ils ont à faire, ils ont des réunions, ils doivent
gérer un service souvent.
Gérer ce qu'ils ont. 60 malades, c'est pas donné par jour. Le deuxième axe, c'est mettre le patient comme noyau, comme stratégie de l'association, et l'aider à parcourir ce chemin qui est long. Il y a quelques jours, une patiente m'a téléphoné, elle m'a dit « je suis fatiguée ». Je suis fatiguée, je n'en peux plus avec tous ces bilans d'extension, etc.
C'est stressant.
Et là, il fallait que je la réconforte en lui disant, mais ça va.
Il faut tenir, il faut s'accrocher.
Et les gens guérissent, etc. etc. Donc, l'association doit jouer son rôle sur ce côté.
Vous avez une page Facebook où on peut vous contacter, madame?
Centre Ahmed Chatta.
Ok, Centre Ahmed Chatta, allez-y sur la page Facebook.
Ahmed Chatta, C-H-A-2-T-A.
D'accord.
Et c'est un centre où la patiente peut nous envoyer un message privé. Ce café de la vie que nous organisons est très...
C'est tous
très
les combien de temps que
vous écoutez,
faites
tous les
le
mois.
Le prochain café, c'est pour quand?
C'est cette semaine qui arrive à la Gouate.
À la Gouate, d'accord.
Et on aura des patientes de...
C'est très bien, voilà. Texaha.
Voilà. Je reviens sur les patientes, les nouvelles.
Oui.
Quand elles rentrent au café de la vie, elles sont complètement sonnées. Et elles sont reçues par les anciennes patientes qui ont été formées.
Oui.
Par leur maladie, parce qu'on les forme
bien
pendant
sûr.
Toute l'année.
Oui.
On leur forme, on leur explique, etc.
Elle la rassure.
Il faudrait aussi que j'ajoute pour cette histoire de mastectomie, l'association, et nous avons donné au professeur Ocal, si vous vous rappelez, au moins 1000 prothèses mammaires.
Oui.
Nous
donc c'est pas un problème, je veux dire, pour l'esthétique et pour
reste,
se régler. Docteur Zaidi, je rappelle que vous êtes au niveau du CHU de Nimsous, et après c'est professeur Gendouz qui va clôturer l'émission. Allez-y.
Alors mon conseil, nous sommes là pour sensibiliser,
informer, sensibiliser.
Nous aimerions que toute femme soit consciente du risque du cancer du sein, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc ça ne coûte rien vraiment de faire déjà son autopalpation,
de
parce
faire
que
sa maman,
sa, son autopalpation d'abord et respecter bien sûr les examens indiqués périodiquement,
tous les deux ans,
que ce soit l'échographie ou la mammographie,
c'est tous les deux ans, précisé, voilà,
oui,
entre
ans.
À partir de 45 ans jusqu'à 80 ans. Professeur Gendouz.
Supérieur à 50 ans.
Parce que...
Et il faudrait qu'elles aient conscience qu'on est là pour elles. Donc, on essaie de tout faire pour que les choses se passent bien au diagnostic et après diagnostic.
Bien, t'es comme ça. Professeur Gendouz.
Moi, je dirais qu'on a fait beaucoup de progrès, dans ce domaine-là, mais il reste beaucoup à faire. Il faut continuer dans cette même optique, faire des efforts, faire de la sensibilisation. Pourquoi pas ne pas atteindre un taux de 80% de conservation du sein comme se fait à l'étranger. C'est ça notre objectif. On est arrivé à presque 50%, on voudrait arriver à 80%. Mais j'aimerais juste à travers votre émission sensibiliser nos femmes et leur dire acceptez un traitement conservateur lorsqu'il vous est proposé. Ça n'a aucun danger sur votre santé.
Il faut peut-être faire des campagnes comme ça d'explication.
Parce
qu'elles
ont tendance à avoir peur de conserver le sein parce que c'est un cancer. Je leur dis, c'est un traitement efficace et qui a donné son recul.
En tout cas, moi, je salue aussi professeur Kérard qui s'occupe du service hémato, qui s'occupe d'une personne qui m'est très chère au niveau de Nimsous, donc Bouzrea, et un service, où je vous dis, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, et elle ne s'arrête pas. Donc, chapeau à tous les médecins qui sont sur le terrain et qui s'occupent des personnes atteintes de quel que soit le cancer. Merci à vous, mesdames. Merci à vous. L'émission est podcastée sur Radio Algérie chaîne 3. Et puis, bichfa alaikum tous ceux qui sont en train d'avoir un cancer et qui luttent au quotidien. Yemen Aish, demain, une autre émission sera ici. Voilà. Non, pas oui. Demain, c'est Hamid Belkassem qui parlera d'environnement. Je vous souhaite de passer une belle matinée. Au revoir.
Coke cans and BB guns, barbed wire and old fence posts. 8-point bucks in autumn and freshly cut cornfields. One arm out the window and one hand on the wheel. Some things just go better together and probably always will. Like a cup of coffee and a sunrise. Sunday drives and time to kill. What's the point of this old guitar if it ain't got no strings? Or pouring your heart into a song that you ain't gonna sing. It's a match made up in heaven, like good old boys and beer and me, as long as you're around.